Ben pour l'instant, elle est plutôt pas mal reçue. On a que des retours positifs, les gens ont l'air d'aimer. Tout le monde ne l'a pas lue, parce qu'en effet, elle est assez récente. Mais en tout cas, pour les lecteurs, tout a l'air de bien se passer. Tout le monde attend la suite et j'ai vraiment que des. J'ai vu que des sourires pour l'instant.
Et vous, Fabien, comment ressentez-vous cette première, cette sortie?
Ah là, c'est un peu tôt pour vous le dire, puisque je suis arrivé à 13h30 et que je suis en salle de presse depuis 14h, donc après un très très court passage au restaurant. Donc pour ce qui est de la rencontre avec les lecteurs, dans mon cas, ça sera en fin d'après-midi plutôt. Mais sinon, ça se passe bien. J'ai quand même rencontré quelques personnes qui ont lu le bouquin. Ils ont l'air d'aimer ce qu'ils lisent, donc et d'avoir envie de lire le 2. Donc pour l'instant, c'est un bouquin qui bénéficie d'un très bon accueil.
Donc c'est un diptyque et vous nous confirmez bien que la seconde partie et la fin donc sera en mi-mars à peu près.
Le 13 mars même.
D'accord.
On s'y engage. Nous, on l'a fini, on l'a lu.
Oui.
Non seulement on l'a écrit et dessiné et vu mettre en couleur par Bruno Garcia Nobbe, mais en plus, on l'a lu. Et on a bien aimé.
Voilà.
Très bien. Présentez-nous donc Silas Corée.
Alors, détective, espion, tueur, héros ou escroc, ça dépend de l'employeur. Voilà, ça c'est Silas Corée. Le contexte, c'est Paris. 1917, donc la Grande Guerre fait rage, et ça n'est pas une histoire de guerre, c'est une histoire sur les arcanes de la vie politique et des négociations internationales pendant la guerre. Donc c'est un thriller politique beaucoup plus que un récit de guerre. Silas Corée est engagé pour retrouver un reporter disparu pour le compte de Clémenceau, qui est alors dans l'opposition. Et comme il semble que le reporter en question n'ait pas disparu les mains vides, un certain nombre de gens s'intéressent à ce que pourrait trouver Silas, dont le président du conseil Joseph Caillaux, le deuxième bureau, donc les services secrets français, une richissime industrielle de l'armement, Madame Zarkov, bref, il y a du monde, comme on dit, sur la corde à linge, et qui ont envie soit qu'il arrête d'enquêter, soit qu'il enquête pour eux. Alors il trouve une solution assez efficace. Plutôt que d'arrêter d'enquêter, il leur propose d'enquêter pour chacun d'entre eux, ce qui lui permet d'obtenir 3 salaires en 3 jours, et partant du principe qu'il vaut mieux se faire payer que se faire taper dessus. Et ensuite, eh ben, il pourra toujours choisir pour qui il travaille vraiment, en fonction de ce qu'il trouve.
Très bien, merci. Comment s'est passée votre rencontre et votre collaboration?
La rencontre, c'est je suis allé vers Fabien, connaissant son travail, et j'avais un petit peu envie de travailler justement avec quelqu'un qui écrit comme il écrit. Et donc je me suis présenté, on se connaissait pas vraiment. Voilà, j'ai eu son adresse email, j'ai envoyé un petit mail, je me présente. Est-ce que moi j'aimerais bien travailler avec toi? Est-ce que tu mon dessin t'intéresse?
On a téléphoné,
On a
causé au
téléphoné,
téléphone, ouais.
on a téléphoné, ouais. Et puis voilà. Et Fabien m'a présenté d'abord, bon, bah, il était plutôt partant, m'a présenté les projets qu'il avait.
Mais surtout, c'est de mémoire, tu m'as appelé 3 semaines après que j'ai fini le scénario. Comme quoi, il y avait un truc dans l'air, quoi. Tes antennes ont bien fonctionné. Et puis, il y avait ce script, il y avait le trait de Pierre qui est à la fois très original parce qu'il est très dynamique. Il y a des éléments venant de ce qu'on va appeler l'école Disney. Il y a aussi des parties qui peuvent être réalistes, qui peuvent être plus noires, etc. Donc il y avait et ça collait très bien à cette idée que j'avais du personnage qui était un dandy décontracté, mais en même temps dangereux, dont la relative irresponsabilité est mise en valeur par la noirceur du monde dans lequel il évolue. Et donc assez vite, on s'est trouvé sur ce projet ensemble. Et puis bah on est allé le proposer à un éditeur qui nous a dit oui.
Voilà.
Alors, où vous êtes-vous documenté l'un et l'autre sur cette partie de l'histoire?
Pour ma part, y a énormément de documentation, il y a beaucoup de photos, il y a des films. Donc, là, il y a pléthore. Il n'y a plus qu'à choisir et à bien sélectionner les costumes. Moi, j'ai énormément de documentation, je suis assez gourmand. Je récupère énormément de livres que j'entasse dans des coins et là ça tombait bien, c'est une période, enfin ça tombait bien, c'est pour ça aussi qu'on a choisi, c'est que c'est une période que j'aime beaucoup et donc ça faisait un petit moment que j'entassais de la documentation autour de cette période. Et puis voilà, après pour compléter, il y a toujours Internet pour les lieux ou des choses comme ça. Après quand il y a besoin de précision, on se déplace, notamment sur le tome 2, pour il y a une séquence au Galerie Lafayette, donc là j'ai été sur place faire un petit documentaire photo et prendre les angles de vue dont j'avais besoin, des choses comme ça. Et voilà, après oui, il y a pléthore de photos, de que ce soit du AJ et compagnie, il y a de quoi faire quoi, il y a de quoi puiser. Hein.
Et vous Fabien?
Oh bah l'histoire des services secrets au cours des deux derniers siècles était tout à fait amplement documenté elle aussi. Donc en plus moi il y a quelques années j'ai travaillé sur les Brigades du Tigre, donc c'est quand même une période que je commence à connaître un petit peu, avec laquelle je suis familier. Donc j'ai assez vite trouvé ces histoires de on avait ces histoires d'enjeux, de négociations secrètes, 1917, les pigeons voyageurs. Il y avait des détails tout à fait originaux, pittoresques, comme l'existence d'écoutes téléphoniques. Bien avant ce qu'on croit être l'invention des écoutes téléphoniques. En fait, on a inventé les écoutes à peu près au même moment que le téléphone, quasiment. C'est-à-dire qu'un type a eu l'idée du téléphone et un autre type, peu de temps après, a eu l'idée d'écouter ce que se disaient les autres. Donc, finalement, voilà, l'humanité change assez peu, en fait. Et donc, non, la documentation, comme disait Pierre, en plus... Scénariste en a besoin de moins quand même, et la documentation est vraiment abondante sur cette période, parce que la Première Guerre mondiale, c'est aussi la naissance de l'espionnage moderne en plus.
Très bien. Est-ce que donc le deuxième tome sort en mars, peut-on avoir quelques révélations sur la suite des aventures de ce détective?
Oh bah, il va trouver ce qu'il y a sur le timbre que tout le monde cherche. Et effectivement, c'est assez important.
Et à la fin.
Non, et surtout, ce qu'il y a, le tome 2 sera bourré d'action, parce qu'il y a, toute l'intrigue, c'est pour ça qu'on a rapproché les deux tomes. C'est vraiment une histoire en deux parties. C'est pas deux épisodes relativement indépendants. Et, donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand même, il y a, derrière tous ces commanditaires et tout, il y a un véritable adversaire qui est l'espion Aquila, qui dirige les réseaux d'espionnage du Kaiser en France, à Paris. Et il est démasqué, mais non, arrêté à la fin du tome 1, et le tome 2 va mettre en scène plus d'une fois le duel entre Silas Corré et Aquila. Et donc, chacun d'entre eux va pas mal payer de sa personne. Et Nam, le fidèle acolyte et serviteur anamite de Silas, finira par dire à son maître ce qu'il pense de lui.
Merci pour ces quelques révélations. Quels sont vos projets futurs pour l'un et l'autre ?
Moi, personnellement, je vais reprendre un projet qui traîne depuis très longtemps, une adaptation de Moby Dick qu'il faut terminer, parce que voilà, c'est un projet que je mets de côté, que je reporte depuis pas mal d'années, donc je vais essayer de terminer ça cette année, qui va être un gros livre de 120 pages dans la collection Noctambule. Et voilà, et après, je ne sais pas encore.
On essaiera de donner vie à, peut-être à d'autres aventures de Silas, s'il s'en sort. Et voilà, donc ça peut être un bon projet, non? Sinon, après, scénariste, on en a toujours plusieurs au feu. Non, le prochain, ça s'appelle Tyler Cross. Et alors, donc, après avoir fait un détective français, là, c'est un gros gangster américain. Et ce sera avec Bruno, avec qui je prends énormément de plaisir à travailler aussi. En gros, le pitch, c'est Humphrey Bogart chez les Rednecks dans le Texas des années 50. Ce sera un gros bouquin de 90 pages. Une histoire complète. Et alors, lui aussi, il pourrait lui en arriver d'autres s'il s'en sort, mais ça va être compliqué qu'il s'en sorte.